Bienvenue dans Partie Fine. Et voilà, de retour sur les ondes de Radio Grenouille pour une émission du mois de décembre, la dernière de l'année, mais pas la dernière de la saison. Avec notre invité aujourd'hui, qui est Yvan Cadieu. Bonjour Yvan.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci à toi. Et puis une spéciale dédicace, parce que c'est un générique que j'ai mis en place spécialement pour toi.
Ah cool.
As-tu reconnu ? Il faut avoir une bonne culture ciné.
Oui, alors ce qui n'est pas mon cas.
C'est un succès du cinéma français comique des années 70.
Ouais.
Un film.
Ça fait penser à Pierre Richard, moi.
On n'est pas loin, quand même. Hein. C'est avec Coluche et Louis de Funès.
Ah oui, c'est de la cuisse, non?
Bravo.
Voilà, oui, bravo. C'est, j'avais adoré ce film-là.
Voilà. Ouais, c'est un cool. Film qu'on voit tout le temps, qui ouais. passe souvent à la télé, mais c'est une musique que j'aime beaucoup, c'est une musique de Vladimir Kosma,
ouais, cool.
Un grand compositeur de musique de film. Voilà, donc c'est pour toi, Yvan.
Merci.
Bienvenue. On va avoir l'occasion, sur cette petite heure d'émission dans Partie Fine, de faire ta connaissance, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton travail et ton parcours, parce qu'il est assez grand quand même.
Ah ouais, ouais, beaucoup hein, de pays.
Voilà, c'est ça, des voyages.
Une encre jetée à Marseille.
Une encre jetée à Marseille depuis 15 ans. Et ouais. puis voilà, donc tout ça au travers d'un petit voyage musical aussi.
Génial.
Made in Partie Fine. Voilà, on va commencer d'ailleurs tout de suite avec une actu, c'est un Français qui s'appelle Chris Joss. Ça a fait un pseudo un peu américain, mais il a signé d'ailleurs sur un label américain qu'on aime beaucoup, c'est le label de Sivri Corporation, et il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Styx, et je vous propose d'écouter Charmer. We'll be right back. Voilà, c'était donc Chris Joss, un artiste qu'on aime bien ici à Partie Fine, que je suis depuis des années. Donc de retour avec notre invité Yvan Cadieux, on parle beaucoup hors antenne, il y a beaucoup de choses à raconter. Yvan, gros parcours comme je disais tout à l'heure, on va partir peut-être du départ.
Tout à fait, ouais.
Naissance en 1962.
Né à Nantes, un truc important c'est je suis né en 62 avec une péritonite 6 jours après ma naissance.
Ouais.
Donc finalement j'étais pas supposé être là. Mais c'est marrant, j'en parlais avec une copine psy il y a pas longtemps et je lui disais oui, j'aurais dû mourir. Et elle me dit non. Tu as décidé de vivre. Et je crois que c'est ça qui a fait toute la différence.
C'est
et c'est peut-être pour ça aussi toute cette gourmandise que j'ai, tu vois. Et puis après, les premières années, j'ai voyagé avec mes parents parce que mon père travaillait sur les chantiers un peu partout en France. On vivait dans une caravane.
Oui, c'est ça.
Une grande caravane.
Donc, habitué au voyage déjà.
Ouais. Je pense que ça a aussi eu beaucoup d'importance parce que dès lors que j'ai commencé à cuisiner avec un grand maître, hein, c'était un maître cuisinier de France à Nantes, qui s'appelle Monsieur Raymond Pontdeville, compagnon tourangeau. J'ai appris avec lui aussi l'envie de découvrir le voyage. Tu vois, après, je suis parti au Ritz, au Crillon,
chez Lille, de l'hôtellerie.
Et je suis resté un an à Paris et j'ai trouvé cet univers tellement dur par rapport à ce que j'envisageais dans mes rêves d'enfant.
Oui.
Parce que quand j'étais petit, je ratais jamais les émissions de Michel Oliver, à qui je fais un big up d'ailleurs, qui habite à Pertuis, il a 75 ans maintenant.
Mais c'est vrai.
Ça reste mon maître incontesté dans ce qu'est la création et surtout dans les shows de cuisine à la télévision. Parce que c'est une grande partie de mon travail à l'étranger.
Parce que depuis, est-ce qu'il y a eu des showman comme ça à la télé qui assuraient comme lui
Les shows de cuisine. Alors, le show de cuisine, c'est quelque chose qui est plutôt anglo-saxon, qui cartonne aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Angleterre, un peu partout. En France, ça démarre, tout ce qui est émission de cuisine, ça démarre réellement depuis 3-4 ans. Mais il n'y a pas la même approche. C'est un peu comme le comique et le stand-up.
Ouais.
Parce que quand t'es à la télévision à faire des shows en Angleterre, on dit hey, lâche-toi, fais ton show.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, et moi j'arrive sur scène quand je suis en Angleterre, je dis hey, you gotta believe in good food. Ouh, c'est la classe, as we say in France.
Ils adorent ça, le côté extraordinaire. Extraordinaire. À l'étranger, ouais. Ça, c'est...
Et puis en anglais, quand tu parles pas dans ta langue, et moi je parle anglais couramment depuis pas mal d'années, je me sens plus libre.
C'est vrai.
Et je me sens pas investi du conservatisme français qui m'impose quand même une certaine façon de penser et d'agir en France et que je refuse. Mais bon, j'ai mis de l'eau dans mon vin et plutôt que d'être tout le temps à l'attaque, je me dis bon, parlons de choses positives et valorisons ce qui est à valoriser, c'est-à-dire le partage. Que la cuisine soit un moment de partage, un moment de bonheur et quelque chose qui rassemble, qui fédère, qui fait rencontrer les cultures. C'est un peu l'hôtel des cultures.
C'est ça.
C'est comme ça que je le vois. La musique, c'est pareil.
Ouais.
C'est pour ça que j'aime bien déjà Partie Fine.
Ouais.
Ça se rapproche de mon univers, voilà.
Ouais.
Et puis je suis passionné de musique.
Ouais.
J'ai des tonnes de vinyles à la maison.
On en parlera ça tout à l'heure aussi. Ouais.
Mais la cuisine, c'est quelque chose qui est un vrai partage.
Ouais.
Au même titre que la musique. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être riche.
Ah oui, tout à fait.
Puis il n'y a pas besoin d'être sophistiqué. Je crois que la plus belle cuisine, c'est la cuisine la plus simple.
Et pour en revenir à la télé, les émissions, le peu d'émissions qu'on a en France, très très françaises, comme celle de Joël Robuchon, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui.
Non, il n'est plus en télé, non.
Est-ce que c'était connu à l'étranger, ça ? Est-ce que c'est une émission
non.
qui a...
Non,
voilà,
non,
c'est franco-français.
Ouais, tout à fait. Alors que les shows de cuisine, en tant que tel, c'est un énorme business dans le monde. Il y a à peu près 250 personnages dans le monde qui cartonnent, qui marchent fort. Il y a une cinquantaine qui marchent très très fort. Celui qui marche le plus fort, c'est Jamie Oliver en Angleterre depuis une dizaine d'années. Et puis la France est connue pour ses grands chefs. Mais malheureusement moi, je change de pays régulièrement, je suis constamment en voyage et la première chose qu'on dit, ah oui mais les Français sont arrogants.
Et oui, c'est vrai, ça revient souvent ça.
Voilà. Et en même temps moi j'étais réellement formé et motivé par les Britanniques parce que j'ai commencé sur la BBC et c'est là-bas que j'ai appris à faire de la télévision. Donc j'ai une approche qui est plus anglo-saxonne que française et souvent on ne pense pas que je suis français.
Et oui.
Et peut-être mon accent aussi, il y a une touche de français, mais il y a aussi une touche d'Angleterre, de Londres. On a bit about her, tu vois, le cockney.
Le cockney, qu'on
voilà, et que j'aime bien d'ailleurs.
Bon, très bien, on va marquer une pause parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, hein, Yvan.
Et on revient. Je suis une
pipelette. Et oui, et on revient juste après.
Cool. We'll be right back.
Voilà, on est un peu dans l'espace là, hein. C'est des tapis sonores que j'ai choisi aussi parce que j'aime beaucoup cette période des années 70 où la musique instrumentale comme ça qui
j'aime beaucoup, hein.
Qui était très où il fallait vraiment illustrer l'image, c'était la musique pour l'image.
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est pas forcément des disques qui ont eu un succès énorme à l'époque, mais voilà, c'est des gens qui ont fait des choses super. Enfin bref, là on a écouté juste avant Everyday People par James Last. C'était tiré d'un album qu'il avait sorti à l'époque qui s'appelle Voodoo Party. James Last, un grand chef d'orchestre, qui sortait des albums presque tous les mois et qui sur des thématiques bien précises et qui c'est un Allemand en fait il a sorti une quantité de compilations et de reprises dans les années 70, dont ce fameux Everyday People. Je crois que ça datait de 76. Voilà.
Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, j'ai toujours été passionné de musique. Maintenant que j'ai des vinyles, alors je dis ça, je parle de la musique parce que moi je suis né en 62, donc les années 70, j'avais 15 ans, tu vois.
Ouais.
Et tous mes copains bossaient l'été, faisaient les vendanges, tout ça. Et ils se payaient leur chanifi morceau par morceau.
Ouais.
Et souvent ils récupéraient le garage de la maison, ils en faisaient leur chambre.
Ah ouais.
Ça venait de leur petit appart. Et grâce à eux, j'ai découvert des tonnes de musique que je découvrais pas chez mes parents, qui étaient plutôt dans le jazz. Et ma mère qui écoutait constamment Julio Iglesias.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai jamais eu de chanifi. Parce que commençons la cuisine à 15-16 ans.
Ouais.
J'ai taffé tout de suite à Donf et je suis parti à l'étranger, j'ai pas arrêté.
Donc pas le temps de d'acheter des disques.
Alors
de...
par contre, dans tous les pays où j'ai vécu, j'ai découvert des tonnes de musique formidable, mais il y a des tonnes de choses aussi que, auprès desquelles je suis passé à côté, quoi, tu vois.
Ouais.
En revanche, mon frangin m'a trouvé une chanifi dans la rue à Paris, une pièce de collection phénoménale. Et depuis un an et demi, je suis à Donf dans les 33 tours, dans les vinyles, tu vois. Ouais. Et du coup, je me refais cette culture que je n'ai pas eue.
Ouais.
Et donc cette musique que tu passes, c'est vraiment la musique des années 70 qui me fait penser à mon environnement de vie, tu vois.
Oui, c'est ça.
Par mes potes, tu vois, celle que je connais le mieux, c'est Supertramp, c'est Van Halen,
ouais.
Tu vois, les Doors, les Beatles,
ouais.
Et graduellement, hop, j'en greffe d'autres et j'ai un formidable copain disquaire qui est près du cours Julien là. J'oublie toujours le nom. À côté, il y a Tripsicord et c'est celui qui est juste au-dessus. Un grand qui s'appelle Mathieu.
D'accord.
Et qui est fanatique. Il a 10 ou 15 000 33 tours en réserve. Et à chaque fois, je passe un coup de téléphone, je lui dis hey, tu pourrais me trouver ça. Là, c'était Patricia Russian.
Ouais.
Que j'adorais, que j'écoutais à Londres dans les 80.
Ouais.
Il m'a retrouvé l'album. Là, il vient de me filer un coffret spécial des Clapton parce que ma femme Pauline adore les Clapton. Un album de 6 albums. Phénoménal. Pas une rayure, un son colossal.
Ouais.
Et quand on fait la cuisine et quand on reçoit dans l'atelier, on met la musique. Puis du coup, ça crée une ambiance, une chaleur entre la bouffe, la musique, un bon verre de vin, un bon cognac, un bon rhum de Cuba. Voilà, parce que j'ai plein de potes qui sont dans toutes sortes de produits dans le monde entier, qui me les envoient pour les tester.
Ouais.
Et du coup, je partage ça avec mes amis.
Mais alors,
et
du coup, musique et l'ambiance. La musique, tu rattrapes un peu le temps perdu parce que toutes ces années où tu n'as pas eu le temps d'écouter.
Tout à fait.
Et dans tous ces pays où tu as voyagé, bon, je vais citer l'Asie, bon, il y a bien sûr l'Europe et la Jamaïque aussi.
La
tu
n'as
pas eu le temps de prendre un moment pour dire je vais aller voir un concert par exemple.
Alors, si j'ai eu
dans une soirée.
Le seul concert que j'ai eu la chance de pouvoir vivre en Jamaïque, c'était Burning Spear. En live, dans un terrain vague, il y avait 300-400 personnes.
Ouais.
Il y avait des mecs qui donnait des coups de flingue à 1h du matin parce qu'il s'était un peu échauffé. Parce que c'est vrai qu'en Jamaïque, il y a des flingues partout, quoi. Le truc un peu chaud. Mais c'était phénoménal, avec tous les cuivres. Les mecs avaient tous leurs pantalons bien repassés avec le pli
de
la ceinture Rasta qui tombait. Et puis, j'avais rencontré aussi, parce qu'il y avait une radio qui était phénoménale pour le reggae, Airy FM, qui était à Ocho Rio. Donc j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de musiciens là-bas aussi. Et puis, bon, j'allais dans les magasins, tu sais, les mecs qui faisaient leur cassette, tu vois, leur montage. Et bon, la plupart du temps, je savais pas qui étaient les auteurs, mais je m'achetais plein de cassettes.
Quand même,
Je faisais la même chose au Portugal. Et au Portugal, à un moment donné, j'étais arrivé à 200-300 cassettes.
Est-ce que ça t'inspire, la musique, pour créer tes recettes?
Ah, totalement. Totalement. Parce que la cuisine, en fait, c'est un moment qui est inspiré au moment du... ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là.
Ouais.
Tu vois, tu te lèves, on est mercredi, peu importe, ou vendredi, ou dimanche, le temps... Qui tu reçois, pour qui tu cuisines, ce qui se passe dans ta tête, la température, le beat musical. Il y a des tonnes de critères qui font que aujourd'hui tu cuisines comme ça et demain ce sera pas du tout la même chose. Peut-être aujourd'hui tu as envie de faire des gâteaux, puis demain tu as envie de faire du poisson. Et moi ce que j'aime surtout c'est les odeurs. J'adore, comme je dis souvent à ma femme ou à mes potes, je dis moi j'adore cuire un gâteau juste pour avoir l'odeur du gâteau dans l'atelier. Voilà, et ça m'enveloppe. Tu vois, ça c'est pour moi c'est important. Une maison qui n'a pas d'odeur de cuisine, pour moi ce n'est pas une maison qui vit.
Ouais.
C'est super important. Alors si tu combines des bonnes odeurs avec un bon beat, des gens que tu es content de voir, écoute, c'est presque religieux.
Et par exemple, tu pourrais me citer le titre d'une musique qui t'inspire pour toi quelque chose au niveau... par exemple, tu as un souvenir d'une recette créée sur une musique. Est-ce que tu pourrais m'en citer?
Alors, un Miles Davis, parce que j'adore, il y a un album que... je crois que c'est We Love Miles.
Ouais.
Un album jaune, un double extraordinaire. Mm-hmm. Et pour moi, le jazz, c'est un peu comme des vibrations intellectuelles qui viennent te chatouiller le cerveau.
Ouais.
Et surtout Miles Davis, qui est complètement ouf, tu vois, et ça part dans tous les sens, avec des putains de sons derrière qui ont la pêche. Et du coup, tu te dis, tiens, j'allais me faire ça là. Ouh, c'est vivant, c'est vibrant.
Alors, Miles Davis, c'est sucré, c'est salé, c'est
ah,
quoi?
J'étais là, le jour là, j'avais fait un gâteau au chocolat.
Ouais.
Assez bon. Ah ouais. Puis après, il peut y avoir une ambiance suave, comme une Ricky Lee Jones, tu vois, par exemple. J'adore Ricky Lee Jones.
Ouais.
Et j'avais créé, sur un beat de Ricky Lee Jones, un gâteau à l'orange et à la semoule 100% bio que j'avais fait pour ma femme Pauline, que j'avais appelé Paulinette Orangette.
Oh, c'est
ah
mignon.
Ouais, ça c'était classe. C'est un de mes gâteaux préférés.
Moi, je te propose d'écouter un morceau de quelqu'un qui malheureusement disparu depuis pas longtemps, qui s'appelle Jacques No. Je sais pas si tu as connu Jacques No dans les années 80. Là, c'est un morceau qui est inédit, qui a été sorti il y a 3-4 ans, qui est produit par Concord Music Club.
Quelqu'un d'aussi moderne que toi n'a pas de fil à la patte. Tu veux toujours avoir le choix dans les endroits, dans les dates. Tout va à la vitesse du son, les affaires, les personnes. Tu clôt la conversation.
Voilà, Mobile de Jacques No, produit par et réalisé par Concord Music Club, qui est un artiste français, Thomas Deligny, qu'on aime beaucoup encore ici aussi. Bon, on parle de beaucoup de choses avec Yvan Hain, notre invité. Je vais quand même rappeler un truc important, c'est tous tes bouquins qui sont sortis aux éditions Romain Page.
Alors, il y en a 9 qui sont sortis.
Voilà, et tu m'as annoncé tout à l'heure qu'il y allait avoir une...
Alors, il y a une compile des 9 livres, donc 450 recettes qui sortiront dans un gros livre aux éditions Romain Page au mois d'avril pour la fête des mères.
Chouette.
Cet éditeur en profite parce que, comme il sait que je reviens en télévision en nationale en France, je serai sur France 2 d'ailleurs à partir d'une nouvelle émission avec Stéphane Bern. À partir du 25 janvier en diffusion sur France 2, de 15h à 16h du lundi au vendredi.
Ouais.
Et moi j'interviens le vendredi et je cuisine dans la rue avec une petite valise que j'ai mis au point il y a 2 ans.
Alors dis-nous un peu plus sur cette histoire de cuisine de rue, parce que c'est quelque chose que ça apporte. ça date pas de...
Alors ça fait 10 ans que je rêvais ça. En fait, cette idée elle est venue quand j'étais gamin. J'avais vu un film avec un mec qui avait une valise et il appuyait sur un bouton, ça devenait une voiture, un bouton, ça devenait un avion. Et ce délire m'est resté gravé dans la tête. Et un jour, je me suis dit, putain, il faut que j'arrive à trouver le moyen d'avoir une mini cuisine de voyage où je peux cuisiner n'importe où.
Ouais.
Alors j'ai mis au point avec un ami créateur qui s'appelle Roland Mélan, qui est un créateur de mobilier d'art, qui est d'ailleurs un mec qui a un immense talent, qui est aux abattoirs à Marseille.
Ouais.
Et on a repris une petite valise Samsonite années 80, qui est une valise culte que j'ai vu de nombreuses fois dans des films. Mmh. Et dans cette valise, on a installé un petit plateau en bois de travail avec un perforé pour pouvoir installer un réchaud miniature à gaz posé sur un pied de caméra aimanté pour que je puisse poser n'importe où cette petite table de travail. Qui fait dans les, je sais pas, 40 cm de large sur 25 de large. Elle est toute petite en tout cas. Vous pouvez la voir sur mon site, yvancadieu.com, en première page.
Chouette.
Et donc, cette petite valise, je cuisine partout. Et j'ai fait la première utilisation de cette valise au Salon du Livre de Londres il y a 2 ans.
Ouais.
Des Chinois étaient là.
Ouais.
Et ils m'ont dit, écoutez, on voudrait travailler avec vous. Et du coup, j'ai démarré des tournages pour la saison chinoise depuis 2 ans.
Ouais.
Et je cuisine dans la rue en Chine pour le China Food Network. Je suis le premier cuisinier étranger qui fait des shows de cuisine dans la rue.
Ça, c'est chouette.
Pour les Chinois.
Mm-hmm.
Et ça marche très bien. Donc, on retourne l'année prochaine, tourner 24 épisodes d'ailleurs au mois d'août. Et donc, du coup, j'ai remis ça en place pour la France avec l'émission de France 2.
Ouais.
Et on a travaillé aussi sur une valise un peu plus grande pour faire une série au niveau international pour sillonner un peu partout dans le monde.
Dont tu m'avais dit la Jamaïque.
Alors Jamaïque, on prépare un tournage là-bas avec les stars de l'athlétisme et les chanteurs de reggae.
Ouais.
Parce que j'ai vécu en Jamaïque pendant 1 an. Ma fille Alta est d'ailleurs née là-bas en 94. Et j'ai vécu 1 an là-bas. J'ai fait 50 000 km en Jamaïque.
Ah ouais.
J'adorais, j'ai signé la Jamaïque dans tous les sens. C'est un pays que je trouve extraordinaire.
Ouais.
C'est un peu chaud au niveau de du risque.
Ouais, c'est ça.
À Kingston, on se balade pas n'importe où. Parce qu'il y a quand même 1 million d'habitants et 800 000 vivent dans les bidonvilles.
Ouais.
Il y a beaucoup d'eau partout. Mais en même temps, bon, après, il suffit d'être assez aguerri, intelligent pour analyser les choses. Quand on a voyagé, on a pris des habitudes qui font qu'on va pas n'importe où, quoi. Et donc, une série en préparation là-bas, avec cette petite valise. Une série en Chine. Une autre série qui est en discussion pour américaine autour de la Méditerranée.
Ouais.
Avec un distributeur américain et une boîte de prod grecque.
Ouais.
Il cherchait un Français qui avait fait de la télévision, qui parle anglais et qui était aguerri au show. Donc c'est en cours de développement.
Super.
Mais cette idée de cuisine de rue, pour moi, c'est essentiel parce que j'ai fait la cuisine sophistiquée dans le monde entier pendant de nombreuses années, dans les grands hôtels, dans des restaurants très classe et avec des gens très fortunés.
Et oui.
Mais je suis toujours resté attaché à mon univers populaire. Et mot que j'adore d'ailleurs, parce que pour moi, populaire, c'est un mot qui est grand.
Oui, tout à fait.
Art populaire, c'est quelque chose que tout le monde peut apprécier.
Et cuisine populaire,
et cuisine populaire, voilà, moi c'est l'essence même de mon travail.
C'est ce qu'on retrouve dans tes bouquins.
Tout à fait.
Là, il y en a. Bon, moi j'en ai un sous la main, c'est jus de fruits et légumes, mais il y en a plein d'autres.
Alors, avec Romain Page, 9 bouquins, compile de tous les livres en avril. J'ai un livre qui sort en Suède. Au mois de septembre, et il va être présenté à Francfort, à Londres, à Paris dans le courant de l'année prochaine, sur la cuisine populaire française, mais avec un côté un peu décalé parce qu'on reprend des classiques français comme le canard à l'orange, comme la tarte au citron, comme le bœuf bourguignon.
Mais c'est populaire ça aussi.
Alors
ça.
C'est populaire, mais pour beaucoup de chefs en France, c'est ringard.
Ah,
et
oui.
Alors que dans le monde entier, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent la tradition française.
Ah, oui.
Mais rien nous empêche de la réactualiser, d'en faire quelque chose de plus contemporain. ouais. D'une approche plus simple. Moi, j'utilise aucun terme professionnel dans mes bouquins pour que tout le monde comprenne. Et ce livre, je pense qu'il va être traduit dans 3-4 pays dans la foulée. On est en train de préparer un deuxième bouquin avec eux. Il y a 2 livres traduits en Russie, 3 en Angleterre, 3 livres en préparation pour l'année prochaine.
Bon, et le dénominateur commun de tous ces bouquins, c'est populaire alors, ces recettes?
Oui, moi je veux que les gens puissent faire la cuisine. Ma base, c'est que je me dis, ma mère Yvette doit pouvoir faire ses recettes.
Ouais.
Voilà. Si ma maman peut les faire, tout le monde peut les faire.
Mmh.
Et j'ai la chance d'avoir mon épouse Pauline qui est gourmande et gourmette, qui m'accompagne et qui fait un boulot extraordinaire. Parce que je dois dire d'ailleurs, big up à ma femme, parce que depuis qu'on est ensemble, elle m'a aidé à structurer mon travail de créateur, parce que j'étais un peu parti dans tous les sens.
Ouais, t'es un peu comme un artiste, toi, qui dans sa bulle et en même temps, qui voyage, qui crée.
J'ai besoin d'être tout le temps en action à créer, tu vois, comme n'importe quel autre créateur. Un sculpteur, un peintre, un musicien, un photographe.
Mais après, il y a des réalités au niveau de la gestion. Après,
exactement.
Ils sont là, et c'est Pauline.
Et c'est Pauline qui a pris tout ça en main, qui gère le relationnel avec les sponsors, les partenaires, les événements, les festivals, les promos, les sorties de bouquins. Et donc là, il y a vraiment une envolée puissante pour 2010.
Ouais.
Et je pense que vous verrez pas mal d'Ivan Cadieu dans les
années à venir. On le souhaite, c'est mérité, vraiment. Bon, je te propose de faire un petit retour dans le temps, dans les années 60, avec le mouvement Mods.
Ça j'aime bien,
tout, tu vois.
J'adore.
Voilà, avec un titre de Chris Farlow. You don't know what's going on. You've been away for too long. Can't come back, think you are still mine. You're out of touch, my baby, my old fashioned baby. I said, baby, 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 you're out of time. Up your social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're obsolete, my baby, my former favorite baby. I said, baby. Baby, baby, you're out. Voilà, c'était donc Chris Farlow avec Out of Time, un extrait d'une compilation qui s'appelle The In Crowd. The In Crowd, c'était le morceau hymne des mods dans les années 60.
Voilà. Classe.
Ouais, donc ouais, on parlait justement de ça, de Londres, puisque t'as vécu là-bas aussi.
Bah, ça a été ma grande influence parce que j'ai démarré à Londres quand j'avais 18 ans. Je suis parti là-bas, je parlais pas un mot, à peine, à part mon anglais d'école. Ouais. J'avais 12 sur 20, mais à savoir comment je les avais, je ne sais pas. Mais l'anglais de la rue, c'est de pas la du rue, tout l'anglais ouais. qu'il y a dans les bouquins, quoi.
Et oui, oui.
Donc je suis arrivé à Ipswich, dans l'est de l'Angleterre, East Anglia,
ouais.
En 1982.
Ah ouais.
Je me trompe pas. Non, non, 80, 1980.
C'était tout jeune. T'avais quoi,
18 ans. J'avais 18 ans.
Ouais.
Et je bossais pour un mec qui était très connu à la télévision, qui s'appelait Robert Carrier, mm-hmm. qui était une des grandes stars des shows de cuisine à l'époque déjà,
ouais.
un Américain. Il avait son manoir
ah bon
du XVIIe siècle qui avait l'école de cuisine, un potager phénoménal, un restaurant extraordinaire, et il avait toute une halle du château qui était réservée pour la fabrication de ses magazines.
Ah oui.
Donc déjà, j'étais déjà lancé dans le secteur dans lequel je suis aujourd'hui.
Ah oui.
Et j'avais beaucoup d'estime pour ce bonhomme. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai vu un fantôme deux fois. J'en parle souvent avec mes potes qui en rigolent, mais j'avais 18 ans, je fumais pas de pète, je ne buvais pas d'alcool. Et un soir, un dimanche soir, dans le noir total, je vois un fantôme qui traverse le parc à une trentaine de mètres, un halo mais vraiment distinct,
ouais.
avec un truc sous le bras comme un ballon, c'était sa tête. Et il est allé s'asseoir à une dizaine de mètres de moi au pied d'un chêne tricentenaire, et je suis resté figé. Et après je suis parti en courant. Trois jours plus tard, il est revenu me voir devant la petite maison, parce que moi j'habitais la maison du gardien près du portail du château. Il était sous un sol pleureur, avec, pareil, la tête sous le bras. Et j'ai appris que le lord du château s'était fait couper la tête à la hache au XVIIe siècle. Donc, ah oui, mais là-bas, des fantômes, vu que
c'était
les Anglais...
pas une blague.
Ah non, je te promets. J'étais tout à fait sain,
ouais.
tu vois, de corps et d'esprit. Et je suis resté scotché, quoi. Je ne pouvais plus bouger. J'étais pétrifié.
Ouais, j'imagine.
Pour te dire. Enfin, pour dire que c'était l'époque où j'écoutais oui. Altered Images. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'avais encore à l'époque qui était génial j'ai oublié maintenant.
Ça, c'était les années 80.
Ouais, les années 80, ouais. Patricia Russian,
ouais.
dont je parlais tout à l'heure,
oui.
que j'adorais. Bronski Beat aussi.
Ouais.
Ricky Lee Jones.
Ouais.
Enfin, des tonnes de trucs comme ça, quoi.
Ouais, et donc, on parlait de look aussi. Parce
ouais,
que...
puis c'est vraiment le pays où l'excentricité est naturelle. Alors, moi, je suis un excentrique. Je racontais à ma fille, d'ailleurs, la semaine dernière, je lui expliquais comment j'étais habillé à l'époque. Moi, j'avais la coupe Altered de. R4100 s'appelait le groupe.
C'est
et
quoi,
donc j'avais les cheveux courts d'un côté et les cheveux longs, une longue mèche parce que j'ai les cheveux très raides qui me tombaient dans les yeux. Je portais des manteaux de fourrure style lapin long jusqu'aux chevilles.
Ah oui.
Avec pantalon en cuir.
Je veux des photos.
Ah ouais, attends, mais pantalon bleu électrique avec chaussures bicolores anglaises bleues et crème. Et puis après. Étant donné qu'il y a plein d'excentriques là-bas, t'es vraiment à la maison parce que personne va te juger. Et ça a toujours été comme ça chez eux. C'est leur délire. Voilà, parce qu'ils sont quand même très polis. Ça les empêche pas. Tu vas rencontrer un punk ou un mods dans la rue ou un mec complètement barré, ça ne lui empêchera pas s'il touche de dire oh, excuse me, I'm sorry, would you like a tea, I'm so glad to see you. Tu vois, vraiment toujours ce respect de la politesse et de la personne. Et puis j'ai adoré tout ce que j'ai appris là-bas, quoi.
Et pourquoi en France on n'arrive pas à se lâcher comme ça ou être
putain, parce qu'on est anarchique, on aime bien gueuler, on aime bien se plaindre.
Ouais.
Le trait français le trait principal du bien-être contemporain en France, c'est la critique.
Ouais.
C'est critiquer. Quand je suis en voyage, on me dit ah vous êtes français. Là. Et puis finalement ils disent oui mais vous paraissez pas français parce que vous êtes cool, vous rigolez, vous moquez de vous-même.
Ouais, ouais.
Et justement j'aime ça. Tu
Donc
vois,
on n'a pas forcément une bonne image à l'étranger. Hein.
Non non. Et je suis content de porter ce message positif pour dire qu'il y a une France nouvelle, une France contemporaine, qui est plus intéressée au partage. Et puis amener une image qui n'est pas le français est le meilleur au monde, même si on a un palmarès de cuisine qui est le plus grand du monde, parce qu'on a plus de 9000 plats dans le palmarès, on est avant les Chinois et les Italiens. Voilà, c'est France, Chine, Italie.
D'accord.
Voilà. Et donc on a quand même un savoir-faire qui est colossal. Et quand les Français sont à l'étranger, si on aime les gens et si on est passionné de cuisine, on peut cuisiner n'importe où dans le monde, même avec juste un grain de riz.
Alors merci Yvan de faire changer cette image des chefs français à l'étranger, parce que c'est vrai que la vieille école entre guillemets, c'est vrai que bon à la fois elle est reconnue sur le plan professionnel parce qu'elle a apporté énormément de choses et tout, mais c'est vrai que ce côté
c'est trop rigoureux.
Ouais, voilà,
tu vois.
Ouais.
Je crois que si on a tant de problèmes aujourd'hui pour avoir des jeunes qui sont motivés à rentrer dans les cuisines, c'est que c'est un univers qui est tellement archaïque où les gens parlent mal, ils insultent. adultes, ils sont mal payés. C'est un boulot où t'as une vie qui est malsaine parce que tu fais à bouffer, tu manges mal la plupart du temps. Souvent les cuisines sont dans les sous-sols. Les mecs quand ils créent des restos, ils pensent d'abord à la salle et la cuisine en dernier. Et puis il y a pas de, il y a une telle obligation dans les grandes maisons de parler dans un langage professionnel qui est une espèce de langage codé que finalement on n'a aucune opportunité d'expansion, tu sais, d'élargissement intellectuel. Moi j'ai trouvé après. Parce que je me suis mis à lire des livres et ma femme m'a poussé à lire des livres parce que j'en lisais pas. Et du coup, ça a élargi mon univers intellectuel depuis un an ou deux. Et puis surtout, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y a une nana, une attachée de presse qui me dit « Mais dis donc, tu parles bien pour un cuisinier. » Et j'ai pas su lui répondre. Et je me dis « Putain, là, il va falloir que tu travailles à élargir le palmarès de mots que tu utilises. » Parce que la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer. Et quand on peut s'exprimer, on peut passer ses idées. Et quand on peut passer ses idées, on s'affranchit, on trouve sa liberté créateur. Voilà.
Bien. Une petite pause ?
Allez.
Allez, c'est reparti. We'll be right back. Nous retour dans cette super émission qui est partie fine. Hein. Je m'envoie des fleurs. Dans Radio Grenouille, bien sûr, des 3-8, avec notre invité Yvan Cadieux. On est un peu sur la fin d'émission, mais ça se passe bien. On fait connaissance avec l'homme,
c'est
le
formidable.
Chef, ouais. Qui est là, qui vit à Marseille, à Malmousque, hein, c'est ça.
À Malmousque, dans le petit port, en fait, dans la calanque de Malmousque. Hein. Ouais. J'y suis depuis 14 ans et on a ce petit atelier extraordinaire, qui voilà. Est une boîte à musique avec des milliers d'objets. Ouais. D'ailleurs, j'ai commencé.
On
y
le voit bien
des
dans
cours.
Les bouquins, d'ailleurs. Hein,
Disons que tous les livres sont faits dans l'atelier, que ce soit des livres pour la France ou l'étranger.
Bric-à-brac, mais ordonné en même temps.
Tout est réfléchi.
Voilà,
il y a des années de recherche avec les partenaires.
Sans les voyages aussi là-dedans.
Ah ouais, tout à fait. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est que l'atelier aujourd'hui, c'est le noyau où lorsqu'on va et revient à un voyage, on repose nos idées, on ramène des idées, on les construit, on les peaufine et puis on les partage aussi avec nos amis. Puis on les partage aussi parce qu'on commence à faire des ateliers de cuisine
voilà.
Depuis quelques semaines. Et ça plaît énormément. On prend des petits groupes de 6 personnes maximum.
C'est bien.
Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit des gens qui se connaissent ou qui sont collègues ou qui
d'accord.
Veulent se faire un atelier le midi ou un le soir. On fait 3 heures d'atelier. 9h,
10h. Comment on est au courant de tout ça? Alors, est-ce qu'il y a un planning? Est-ce qu'il y a quelque chose?
Alors
ça
non,
se fait
c'est à la carte. C'est à la carte, c'est au feeling.
D'accord. Ouais.
Une fois qu'un groupe s'est monté, il nous appelle, on dit maintenant on est 6, on voudrait le faire tel jour, on voit si ça cale, que ça cale entre les tournages qu'on fait, les déplacements, les bouquins, tout ça. Et on veut que ce soit vraiment un moment convivial, qu'on
d'accord.
Passe 3 heures ensemble. On commence à 3, mais des fois c'est 4. Parce que du coup, il y a 2 heures d'atelier, 1 heure de repas, qui est souvent entre 2h30, 3 heures d'atelier, 1 heure de repas.
Ouais.
On cuisine ensemble, on mange ensemble, on boit des bons vins ensemble, on met de la bonne musique ensemble et c'est ce qui me permet d'avoir créé un nouveau métier entre la création de bouquins, les shows télé, les campagnes des partenaires avec qui je travaille.
Mmh.
D'avoir quelque chose qui rassemble tout ça.
Oui.
Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en tant que créateur, on a évidemment beaucoup de marques qui bossent avec nous. Parce que moi, j'ai pas les moyens autrement de pouvoir créer. Parce que quand on crée, quand on est passionné, il faut des centaines, c'est pas des milliers d'objets.
Mmh.
Donc je bosse avec Smeg en Italie, IVV pour les verres en Italie, KitchenAid aux États-Unis. Ah, c'est formidable.
Formidable.
Fait main. D'ailleurs, eux, c'est une entreprise qui a coulé dans les années 50, qui a été redémarrée par le personnel.
Oui. Mmh.
Et ils sont propriétaires de l'entreprise. Donc ils font pas de bénéfices, sinon ils font un 13e, 14e, 15e mois.
Ah oui, d'accord.
Voilà. On travaille avec les épices Arcadie Cook bio, qui sont pour moi les meilleures épices bio en France. On travaille avec Opinel. Et ça, je suis très fier de bosser avec Opinel parce qu'on bosse avec Opinel au niveau mondial.
Ah oui.
Partout où je cuisine à l'étranger, j'ai toujours un Opinel dans la poche. Et les Opinel de cuisine, je bosse avec Chasseur, les cocottes. Enfin voilà, la liste est longue. Allez voir sur le site.
C'est grâce à eux que les livres sortent aussi, peut-être.
Alors certains livres ont été faits grâce à des partenaires.
Voilà.
Ouais, tout à fait, qui ont appuyé le travail. Parce qu'ils aimaient l'esprit dans lequel on travaille et que le style de cuisine allait avec leurs idées. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises veulent travailler avec des créateurs dans tous les domaines pour aborder une autre façon de faire du business et pour que les gens comme nous aient leur place aussi. Parce que je pense qu'il est temps que les artistes aient la part du gâteau qui leur est due.
Tout à fait.
Voilà, pour moi, ça, c'est super important. D'ailleurs, je voulais te dire, il y a une petite recette dans le livre sur les jus.
Ouais.
Un petit pastis piscine,
voilà.
Peu délirant.
C'est marrant parce que tu fais l'émission à ma place. Bon, là. J'allais en parler. On va, puisque les habitués de cette émission savent très bien que j'ai toujours une petite recette de cocktail. Et là, forcément, un spécial dédicace, puisque dans ton bouquin, jus de fruits et légumes cuisine à la centrifugeuse, on retrouve à la fin, puisque tu vis à Marseille Picard,
ouais.
Une petite dédicace
ouais,
aussi.
Fallait.
Un petit pastis piscine vitaminé.
Alors, tu sais quoi? Ça j'adore parce que il y a une grande mode des antioxydants aujourd'hui.
Ouais.
Et l'idée c'est de pouvoir s'envoyer à un moment festif, à un moment de plaisir, à un moment un peu délirant en buvant un peu d'alcool.
Ouais.
Je suggère pas que ce soit quelque chose à faire tout le temps, mais de temps en temps c'est vachement agréable pour réunir les amis et avoir une espèce de petite apogée de folie. Mais là c'est pastis à la marseillaise. Au lieu de le mettre avec beaucoup d'eau pour le faire piscine, moi je le fais avec un jus de pomme et fenouil à la centrifugeuse.
Ouais, c'est ça.
Donc les deux combinés c'est super cool, tu vois, parce que c'est vraiment excitant au palais, et avec des glaçons de jus de tomate épicé.
Ouais.
Et tu mets ça dans ton pastis, écoute, franchement, c'est top délirant.
Bon, je dis la recette pour les auditeurs quand même.
Ouais.
Donc, c'est pour 4 personnes.
Ouais.
Ça représente 50 centilitres environ. Ingrédients, un fenouil, une pomme acide style Granny Smith et 10 centilitres de pastis. Donc, rincez le fenouil et la pomme, passez-les à la centrifugeuse, parfumez au pastis. Décoré de brins de fenouil et accompagné, si vous le souhaitez, de glace pilée. Et par-dessus, donc, on peut mettre ces fameux glaçons
exactement,
de tomates.
Exactement.
Super idée.
Et sinon, tu peux inverser. faire des glaçons de jus de fenouil et pomme, ouais, et arroser ton pastis avec le jus de tomate.
Ouais, bonne idée.
Assaisonné.
Monsieur Clouseau va goûter ça, hein. Peut-être chez toi d'ailleurs. Hein,
allez hop, exactement, jours, hein, au cabanon. Allez, hop,
au cabanon. Quelque chose d'important, puisqu'on parlait des ateliers, mm-hmm, pour s'inscrire, est-ce qu'on vous contacte via le site internet?
Alors le mieux, c'est sur le site yvancadieu.com.
Ouais.
Il y a un lien, il y a un blog que Pauline est en train de mettre en place en ce moment, mm-hmm, parce qu'on y met les photos des rencontres qu'on a fait. Et voilà, il nous envoie un mail. L'adresse c'est The Postman, mais c'est dans le site.
Ouais, d'accord.
Et puis après, bon, bah, il faut créer un groupe. Hein, parce qu'on, l'idée, c'est de pas piocher les gens un par un, mais c'est de créer une équipe, une ambiance où les gens s'amusent ensemble. Ça peut être des copines, ça peut être des avocats ensemble,
ouais,
qui ont bossé très très dur toute la semaine, et qui se mettent à la fin de la semaine. Allez, il est 8h, on va à l'atelier au bord de la mer.
Ouais, ouais.
On cuisine un peu, on fait l'apéro, on en met du bon son,
ouais,
ils boivent des bons vins. Ça peut être des patrons d'entreprise, ça peut être des musiciens, ça peut être des ménagères. Ça peut être des nanas qui ont envie de lâcher un peu leur mec, ça peut,
ouais,
être des mecs qui veulent se retrouver entre mecs, ça peut être des tonnes de possibilités.
Bon, revenons à la musique, puisqu'on est dans une émission, ouais, musicale aussi. Si, il y a un morceau qui est sorti il y a quelques temps.
Alors, le Cake à la Banane Groove, et, ouais, on l'a fait aussi en anglais, qui s'appelle le Banana Cake on the Groove.
Ouais.
Et là, on est en train de lancer depuis hier avec notre équipe et mon beau-frère, Mich, que j'appelle Micheton et des fois Mich de Pain. Et Michel Rostin est un formidable bassiste qui joue aussi avec le groupe Big in Japan.
Ouais.
On avait fait un morceau avec Antoine Germain,
ouais,
et puis maintenant on est en train de travailler avec une autre équipe. On a Steph qui est un pianiste extraordinaire, un peu délirant, un peu ouf d'ailleurs,
ouais, ouais.
On a Fred Belin qui est ingé son, qui va travailler sur des prises de son. On a Trompette, son nom de famille, hein, qui est un spécialiste des lumières, un chef opérateur, ouais, qui est aussi en train de bosser là-dessus,
ouais.
Et donc on est en train de lancer cette équipe de recherche pour sortir un nouvel album pour 2010, qui sera présenté, je pense, à Londres et à Francfort. Donc Londres en avril et Francfort en octobre, au Salon Mondial
Mais
du
ça
Livre.
Mais ça serait lié à un bouquin qui sortirait? Ça serait un
alors l'idée,
un
c'est
livre, ou ça serait
il y aura et l'album d'un côté et la possibilité album livre, et on va aussi avoir un clip qui va être lancé, qui sera prêt, je pense, d'ici février, qui sera le clip du premier morceau.
Ça va dans tous les sens, Yvan Cadieu, on le retrouve vraiment et dans les médias et dans les bouquins. Et
mais j'ai la chance d'avoir ma petite femme Pauline qui est à côté de moi. Pauline,
on l'accueille, Pauline.
Parce que,
bienvenue,
ouais,
Pauline.
Voilà, Pauline.
Hello.
C'est Pauline qui tient tout en main, parce que moi
c'est plus qu'un bras droit, Pauline. Hein, c'est
Pauline, c'est ma femme, mon associé, mon agent et
voilà,
la maman de notre fille qui va arriver.
Mais oui,
début
félicitations
mars.
À vous.
Voilà.
Merci bien.
Mais elle a du mérite.
Et c'est elle qui met un peu, enfin qui met complètement, qui forme un peu tout ça aussi, qui est, hein, Pauline, c'est ça. Toi, t'apportes un peu le côté plus administratif,
le côté cadrage
voilà, que Yvan a besoin, parce que Yvan, voilà, ça part un peu dans tous les sens et il a ce côté un peu.
Ça part complètement dans tous les sens, mais
toi,
en
voilà,
même temps, c'est ça qui est bon, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, ce qui est génial, c'est que quand on est face à quelqu'un qui est aussi passionné et qui aime autant créer, le bonheur, c'est d'avoir le plaisir de suivre l'enthousiasme qui est mis en place.
Mm-hmm.
Donc il y a un culot déjà qui est là à la base, qu'on n'ose pas forcément lorsqu'on est plus là pour la partie gestion,
mmh,
et qui me permet après d'avoir des dialogues et des échanges avec nos partenaires notamment qui nous suivent et qui nous font confiance et qu'on remercie.
Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de la radio grenouille38.org pour retrouver à la fois la playlist de cette émission, le podcast et aussi la fameuse recette de Yvan, le cocktail à base de pastis et fenouil. Merci encore, hein, vraiment.
Écoute, c'était un bonheur. Ça fait longtemps qu'on écoutait ton émission et puis moi j'ai toujours été fan de Grenouille, hein.
Ouais.
J'y intervenais il y a pas mal de temps. Et c'est classe qu'il y ait encore une radio de ce type à Marseille.
Merci.
Où on sent cette liberté.
Ouais.
Voilà, c'est
mais
vraiment
il y a des
cool
choses à faire aussi. On a des projets pour
oui,
la Grenouille.
Ouais, on en parlera. En tout cas, merci d'être venu.
Merci à toi.
Et vous êtes prêté au jeu.
Génial.
De Partie Fine. Et à très bientôt.
C'est la classe.
Merci.